Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Bonjour Pierre Richard.
Bonjour, ça va ?
Ça va.
Merci.
Quand on parle d'icône dans votre vie, le premier icône, c'est peut-être votre grand-père maternel qui vous a dit à la fin de sa vie, qui a dit à votre mère, je pense que c'est lui qui réussira le mieux dans la vie.
Je vois que vous avez étudié ma biographie,
ouais.
avec intérêt. Effectivement, j'adorais mon grand-père était italien, mais immigré italien. Il est arrivé dans Cône à pied. C'était à l'époque où les Italiens émigraient beaucoup, parce qu'on ne trouvait pas de travail en Italie. Et il y en avait beaucoup dans le nord de la France. Pas dans le midi.
Ouais.
Maintenant,
dans le nord, dans l'est.
Dans le nord ou dans l'est.
Ouais.
Ça se dilue un peu maintenant. Maintenant, on trouve du travail nulle part. Mais au moins là, tout à l'heure. Et donc, il était arrivé jusque-là, il parlait à peine français, et jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs, il parlait français, mais avec un accent à couper au couteau, que j'adorais. C'était une espèce de colosse, puisqu'il a commencé par porter des rails, puis il a fini par les vendre.
Il avait un côté rému, non ?
Alors oui, alors justement, donc mon icône numéro un, c'était mon grand-père, Argimiro Palassini. Un nom, hein ? Et il est mort malheureusement très, très jeune, 61 ans. Et c'était complètement mon icône, de toute façon, affectif. Et c'est curieux, parce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi vous me parlez de Rému, décidément, vous avez très bien travaillé la question. C'est qu'après, mon icône numéro 2, et je commençais à m'intéresser un peu au cinéma et au théâtre, mais je n'étais pas encore acteur. Non, même loin de là. Mais je me suis pris d'une passion pour Rému. D'abord parce qu'il a un talent extraordinaire, tout le monde le sait. Mais en plus, il avait le même physique que mon grand-père, était fort. Alors, mon grand-père, il parlait comme ça, tandis que l'autre, il parlait comme ça. Bon. Mais en même temps, il avait le physique de mon grand-père, et il avait une des caractéristiques de mon grand-père qui m'amusait beaucoup, puisque ça ne s'adressait jamais contre moi, c'est que mon grand-père italien était colérique. C'était des colères qui montaient très haut, un peu dramatiques, ou plutôt un peu théâtrales, plutôt, mais qu'il arrêtait tout de suite parce qu'il avait le cœur sur la main. Et j'ai retrouvé ça chez Rému. Et pourquoi ? Tout ça. Il se mettait à hurler dans on dit que je suis colérique, tout ça. Et donc, je me suis mis passion pour Rému, parce qu'au fond, il était pour moi un peu le clone de mon grand-père.
Et ben, cette phrase de votre grand-père vous a aidé beaucoup en attendant que ça aille bien dans votre cas.
Elle m'avait frappé sur le moment, non. Parce qu'il avait dit sur son lit de mort, son lit de mort, c'était vraiment le cas de le dire, ouais. Il avait dit à ma mère... De tous les petits-fils que j'ai, Perichat va réussir. Bon. Et ma mère, évidemment, s'est dépêchée de me le répéter. Ça m'est resté dans la tête. Et c'est vrai que ensuite, quand j'ai commencé au cours du lin à travailler, tu vois, et puis que c'est toujours long, on peut aujourd'hui être tout à coup une star à 22 ans. À l'époque, il y avait tout un processus. Hein. D'ailleurs, on ne voyait jamais le metteur en scène. On voyait les deuxièmes assistants ou les premiers. Puis après, le metteur en scène, si on... Bref, ça a été long. C'était long, et pas trop, mais quand même. Pas aux pointes de Funès. Mais quand même, c'était un peu long. Et je ne me suis jamais vraiment inquiété. Je travaillais avec Victor Lannou. Mais je ne me suis jamais trop stressé. Parce que je me disais toujours, bon, c'est pas grave, ça va arriver, mon grand-père l'a dit.
Ouais.
Et c'est fou ce que cette phrase a pu résonner en moi et me donner une conviction, une patience, moi qui ne le suis pas. Une conviction, une patience et un Oui, j'ai dit ça va venir, mais mon grand-père l'a dit.
Ouais.
Mais ça donne une force intérieure formidable.
Le premier déclic au cinéma, c'était à Valenciennes, au cinéma Novéac, je crois. Vous avez vu un film de Danny Kaye, avec Danny Kaye.
J'avais 18 ans, j'étais au lycée Wallon, Valenciennes, petite ville du Nord. Là, on passe de mon grand-père italien à mon grand-père du Nord, totalement
L'univers
différent.
L'univers très différent.
Ah ben complètement, il y en a un qui était immigré italien et l'autre qui était un aristocrate et qui vit dans un château. Ouais. Donc j'ai appris d'un côté à poser des collets pour manger pendant la guerre un lapin, et de l'autre j'ai appris à faire des baisemains. Et donc c'est une petite ville, et donc j'étais très très exposé. Donc un jour je suis passé devant le Novéac, et j'ai vu un acteur américain que je connaissais absolument pas, puis j'étais pas d'une famille qui m'emmenait au cinéma tout le temps, rarement même. J'ai mis une casquette que j'enfonçais juste pour pas être reconnu, puis je me suis mis au fond de la salle. Au lieu d'aller au lycée, et j'ai vu pour la première fois de ma vie, j'ai vu un film de Danny Kaye, qui était une énorme star de l'époque, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. J'ai vu Danny Kaye, grand, blond, sachant danser, chanter, drôle, émouvant. Et quand je suis sorti de la séance...
Il était ce que vous êtes devenu.
Et il était ce que je suis un peu devenu. Et parce qu'en sortant de la séance, j'ai dit, jusque-là, on m'aurait demandé, d'ailleurs, on me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais aucune idée. Et là, je me suis sorti de la séance et j'ai dit, j'ai compris, c'est ça que je veux faire. Alors, pour continuer l'histoire jusqu'à la fin, parce qu'elle n'est pas très longue quand même, parce que sinon je ne me lancerai pas là-dedans, c'est que 35 ans ou 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, plutôt, il ne faut pas exagérer, le Grand Blond est passé à New York au cinéma Le Français, et à la sortie du cinéma, la foule s'est répandue sur le trottoir. Une dame est venue jusqu'à moi, m'a dit, monsieur, j'ai beaucoup aimé, je vous ai beaucoup aimé, puis le film est charmant, et vous êtes absolument délicieux et tout ça. Et elle s'en va, et je me retourne vers Yves Robert, et puis vers l'attaché de presse. Et je lui dis, c'est assez gentil, c'est qui cette dame? Et l'attaché de presse me dit, c'est la fille de Daniké.
Ah, c'est incroyable.
Et j'ai couru dans la foule pour l'arrêter, lui dire, madame, si je suis là, c'est votre père. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas retrouvé. Et 30 ans plus tard, là, ça commence à peser, hein. Hein, ça pèse. Hein. Il y a donc 4-5 ans, j'ai un coup de fil dans le midi chez moi. Bonjour, je suis Daniké, la fille de Daniké. J'aimerais tellement vous soyez à mes côtés. Et on fait un hommage à la Cinémathèque. Donc, tous les 30 ans, dans 30 ans, je vous raconterai la suite.
Bien sûr.
Tous les 30 ans,
vous serez là, mais pas sûr qu'il soit.
Cette histoire continue, perdure.
Donc c'est vrai.
Oui, une de mes icônes, d'ailleurs, Daniké.
Alors, vous avez parlé de Victor Lanoux. Donc vous avez démarré en duo avec Victor Lanoux. Et à un moment donné de votre vie, il y a eu un choix étonnant. C'est-à-dire que quasiment le même jour, vous pouviez entrer dans les ballets, faire partie des ballets de Béjart ou faire la première partie de Brassens.
Oui, à ce moment-là, on travaillait avec Victor. On était à la Galerie 55, à l'Écluse, là où a démarré tellement de gens. On démarrait tellement de gens. Hein. À la Galerie 55, il y avait du philo. Il y avait des fois, il y a eu Bedos qui est passé, mais pas souvent. Mais quand même, avec Marielle, il y avait Pierre Doris, il y avait Jean-Yann. Et puis à l'Écluse, il y avait Barbara. Nous, on faisait ces deux boîtes l'une après l'autre. D'ailleurs, on se dépêchait d'aller l'une à l'autre. Et bon, j'ai toujours adoré le jazz, j'ai toujours aimé la musique, et puis j'ai toujours aimé la danse. Et je prenais des cours, mais comme ça, pas avec un objectif de... D'ailleurs, on ne devient pas danseur à 18, à 19, à 20 ans. En général, on commence à 8 ans. Mais j'étais particulièrement doué quand même, et surtout particulièrement souple. Bref, je posais des leçons de cours de danse américaine. Puis un beau jour, on m'a dit que Béjart faisait des auditions pour chercher des comédiens sachant danser. J'ai dit, alors, s'il y en a bien un, c'est moi. Il aurait pu y avoir Cassel aussi à l'époque. Hein. Il était déjà vedette. Ouais. Et donc, j'ai passé l'audition. Oh, j'ai étouffé, là. J'ai étouffé. Le flip-flap, le grand écart. Et après, parce que je ne l'ai pas vu, il était au fond de la salle. Puis il a dit, bon, mettez musique. Pas agréable du tout, d'ailleurs.
Ouais.
Mettez musique. Ça. Bon, ils ont mis une musique, et puis voilà, j'ai improvisé. Et puis, à la fin, il est arrivé au bord de la scène. Il m'a dit, excusez-moi de mon accueil désagréable. J'ai dit oui. Il m'a dit, voilà, c'est parce que ça fait 3 jours que je perds mon temps à voir des comédiens prétendre savoir danser. Et ils me veulent perdre leur temps et ils m'ont fait perdre le mien. Il dit, vous, c'est pas le cas. Et il s'est retourné vers son assistant en disant, on lui fera quelque chose dans le spectacle. Mais à part, hein, parce que j'avais pas la prétention d'être un danseur classique qui pouvait faire 3 tours sur lui-même. Mais il trouvait que c'était intéressant que je puisse faire des choses personnelles, au fond. Et donc, je suis rentré à la maison en disant, ça y est, je suis chez Béjart. Et là-dessus, Victor m'appelle en me disant « Brassens nous prend en première partie. Cornélien. » Hein, finalement, maintenant, je me rends compte que, encore maintenant, à mon âge, je joue au théâtre, je ne suis pas sûr de danser. Et donc, je ne regrette pas mon choix. Et j'ai dû donc téléphoner à l'assistant de Béjart pour lui dire que j'avais des choses vraiment plus importantes que ça. Non, je n'ai pas dit ça comme ça.
D'accord. Donc là, vous avez fait les premières parties de Brassens. Donc, Brassens, on peut dire que c'est une icône aussi pour vous.
Alors, une des icônes, si vous voulez, puisqu'on parle d'icônes. Ouais. Puisqu'on parle d'icônes, où effectivement, il fait partie de celle-là. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui pouvait, à ce point, irradier autour de lui cette espèce une espèce de soleil. Et c'est curieux, parce qu'on dit le soleil, c'est quelqu'un qui est expansif. Non, Georges était plutôt timide. Mais c'est une espèce d'un brûlot. Et quand on est près de lui, on brûle. Et tous les matins, je me réveille en me disant « Qu'est-ce que je suis content, ce soir, je le vois. » Une espèce comme ça, il avait un magnétisme qui était dû, évidemment, à la qualité de ses chansons. Mais je connais des chanteurs qui ne sont pas tellement sympathiques. Donc, je ne citerai pas le nom. Mais
c'est
lui,
comme vous voulez. Hein.
Je sais bien que vous aimeriez, mais non. Et lui, non, au contraire, il était vraiment d'une simplicité. Et on a fait plusieurs fois Bobino avec lui, c'est pour ça que j'ai fini par quand même Et alors, j'allais des fois dans sa loge, il me jouait du Charles Trenet, parce qu'il adorait Charles Trenet.
Ouais.
Il me chantait les chansons de Trenet.
Charles Trenet, beaucoup moins sympathique que Brassens.
C'est ça, c'est vous qui le dites.
Ouais,
mais il paraît.
Il paraît. Moi aussi, j'ajoute, il paraît.
Ça, j'ai pas fréquenté.
Moi non plus.
Ah bon? Alors de quoi vous...
Alors, l'acteur, ça commence avec Brecht, une pièce de Brecht.
Oui, hein, c'est drôle, hein, c'est sûr.
Ouais.
J'avais un petit rôle et j'ai même failli le refuser, ce qui aurait été stupide pour plein de raisons. D'abord, stupide parce que quand on fait rien, autant accepter. Mais je m'estimais supérieur. Non, c'est pas vrai. Mais j'avais un petit rôle, alors c'est vrai que j'ai hésité, puis je l'ai fait. À ce moment-là, le premier rôle, c'était Samy Frey. C'était l'époque où il était avec Bardot. Ça m'a frappé parce que dès que Bardot venait le chercher, j'aime autant vous dire que les autres, mes copains, on est dans un état second. Y a Brigitte qui est là. Alors, on se dépêchait de se démaquiller pour le voir, mais on ne la voyait pas parce qu'elle se planquait. Et j'ai joué là pendant quelque temps avec Bourseiller, qui est une espèce de prêtre du théâtre, de jésuite, d'une rigueur, d'une exigence et du talent aussi. Et donc, j'ai joué quelques mois. Et à la réflexion, je me félicite de ne pas avoir refusé, parce qu'un an après, il m'a appelé en me disant, voilà, je vais te faire passer une audition, mais je te préviens, ce n'est pas moi qui choisirai. Je suis le metteur en scène, mais ce n'est pas moi qui choisirai, c'est une vedette. J'ai dit, bon, j'ai passé la scène au petit, à Montmartre. Et puis, en fait, c'était Yves Robert. Et comme c'était une pièce de deux personnages, c'était important. Et c'est pour ça que c'est Yves Robert qui avait indiqué à Bourseiller, c'est moi qui choisirai l'acteur que je veux. Et le lendemain, Bourseiller m'a appelé, m'a dit, c'est toi. Et à partir de là, un pas de plus,
ouais.
J'ai joué quelques mois avec Yves. Bon, je passais pas mes nuits avec lui. Lui, à cette époque, c'était Godard qui venait le chercher, c'était Sauté, c'était tous les grands de l'époque, ou d'Abati, je sais pas. Mmh. Et puis moi, j'allais voir mes copains de la Coupole. Donc, je veux dire, j'étais pas pote avec Yves. Mais n'empêche qu'un an plus tard, il m'a appelé. Vous voyez, c'était long, ouais. Hein. Mais je ne savais rien, mon grand-père avait dit. Et un an après, il m'a appelé en me disant, voilà, je vais faire un film, j'ai écrit un petit rôle pour toi, il est petit, mais il est écrit pour toi. J'ai fait en pensant à toi. Et c'était Alexandre Bienheureux. Et c'est Alexandre Bienheureux qui m'a dit, tu n'as aucune place dans le cinéma français, tu n'es ni un jeune premier comme Delon, Cassel ou Jean-Claude Brialy, tu n'es pas un jeune premier, tu n'es pas une rondeur comme Blier. Bref, ça voulait dire, tu n'es rien.
J'ai une autre citation de lui, il a dit « Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage ».
Oui, bah c'est ça, il m'a dit « T'es pas un acteur, t'es un personnage ». Je dis « Alors ?» Mais il me dit « Alors, fais ton cinéma toi-même ». Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est comme ça que quand j'ai eu fini le film de Yves, je me suis mis à écrire avec André Ruelland, qui était un auteur de science-fiction, et surtout médecin, pas surtout aussi. Et c'est lui qui d'ailleurs m'a dit « Relis Ménal que le distrait ». Évidemment, c'était tellement moi. Qu'on a écrit un film là-dessus, le premier. Au bout d'un an, j'étais voir Yves Robert, ou un an, peut-être un peu plus. J'ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a un an ? Il dit, tu m'as dit de faire mon cinéma moi-même, ben voilà. Et j'ai donné le scénario du distrait. Bon, je passe les détails et tout ça, mais finalement,
ouais.
Il m'a produit avec la Gaumont. Il m'avait dit, ça dépendra de Poiré, c'était le grand patron de la Gaumont.
Ouais.
T'as rendez-vous demain à 15h. Alors, mets une cravate, coupe tes ongles, lave tes mains, et va le voir aimer un joli costume. Parce qu'il avait peur que je vienne avec un blue jean troué, des mains dégueulasses. Et j'étais voir Poiré. Et j'ai dit une phrase qui a probablement dû frapper Poiré, que j'ai bien connu après. Je lui ai dit, j'ai encore rien fait, mais justement, vous pouvez tout attendre de moi.
Et ça dit... Ah, c'est pratique, ça. C'est bien. C'est très habile.
Voilà.
Très habile. Bon, après, il y a toute la suite. Et on va parler.
Oui, parce que sinon, j'en ai jusqu'à 17h.
On va parler de la chanson. Votre goût de la chanson, c'est venu comment? Oui. Vous avez eu un gros succès aussi avec une chanson d'un moment de votre vie qui s'appelait La Sardine.
Oui, ça, c'est Elisabeth Depardieu, un jour, c'est le moment que je tournais avec Gérard. Il me dit, ah, mais tu devrais chanter ça, c'est les enfants, ça te correspond. J'ai pas très envie, puis finalement, Gérard m'a dit, mais si, vas-y, oh, oh. Bon. Alors j'ai dit, bon, j'ai dit accepter, c'était François Bernheim qui faisait un peu là. J'aimais bien François, bref, j'ai dit oui. Puis il y avait une jolie chanson derrière, d'ailleurs, on parle toujours de celle-là, mais c'était l'autre que j'aimais bien, qui était écrite par Elisabeth, Dors mon petit con. J'aimais bien cette chanson, elle était très jolie. Mais évidemment, c'est celle-là qui a... Il paraît qu'elle est démarrée comme une bloum,
ah ouais.
comme une fusée. Mais pour qu'une chanson devienne un tube, ce qu'on appelle un tube, il faut ensuite l'alimenter, il faut faire de la service
ouais,
après-vente.
Ouais.
Il fallait que je fasse des télés, tout ça, j'en ai fait 2-3, mais il fallait que j'en fasse 7, 8, 10. Et bref, j'ai arrêté. Je me suis fait engueuler par Bernheim, qui Il m'a dit, t'es fou, quand on en vend autant une première semaine, il faut mettre du charbon dans la machine et tout. Et moi, je ne l'ai pas mis et la machine s'est arrêtée. Ouais.
Ouais.
Mais ça, maintenant, pour parler, revenir au dernier CD dont vous me parlez, voilà. D'abord, je ne chante pas, je parle.
Ouais. Nuit à jour.
Ce que je fais très bien, mieux que chanter, non.
Ouais.
Non, mais c'est surtout que ça, c'est notre objectif, enfin, plutôt notre envie, la mienne d'abord. C'est que je me suis aperçu en jouant Le Petit Ange de la Nuit au rond-point, où il y avait énormément de textes de Ingrid Astier qui étaient très beaux, très poétiques, très, ou surréalistes, ou un peu d'humour. Un peu. Je me suis rendu compte de la... Et puis alors, on avait rajouté dans cette pièce poétique, il y avait Neruda, il y avait Edgar Poe, Baudelaire. Enfin, et je me suis rendu compte, pour la première fois peut-être, du plaisir que j'avais à délivrer des jolis mots, des jolies phrases, des jolies pensées poétiques.
Ouais.
C'était comme des friandises que jusque-là, j'étais passé à côté. Et du coup, le fait de dire les textes, notamment d'Ingrid Astier, « Le rêve et l'aquarium de la nuit ». Et puis, je ne sais pas pourquoi, ma voix s'est même mise à...
Ouais.
Ma voix s'est dit « oui, c'est intéressant aussi ».
Votre voix a joué des rôles.
Mon voix a joué des rôles. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte du plaisir que j'avais de dire des textes. À la limite, je préférais avoir le moins de textes possible dans un film.
Ouais.
Et là, je me suis vraiment fait plaisir. Et donc, après, bon, évidemment, le petit éloge de la nuit s'est arrêté. Et puis, j'ai même après fait exactement le contraire, c'est-à-dire avec Mathilde Amé de jouer... Ouais. Monsieur X, où je ne dis pas un mot pendant une heure et quart, et ça, c'est aussi
vrai,
radicalement à l'opposé, et radicalement, je me suis fait plaisir.
Ouais, c'est une super performance. Hein? Super performance.
C'est pas une performance pour moi de rien dire. Hein. Ce qui est une performance, c'était plutôt le petit âge de
non, mais d'être sur scène et ne rien dire du
oui,
tout,
mais,
et donner du plaisir au public.
Oui, donner du plaisir au public. Et au moins, quand on se tait, on entend bien les rires.
C'est une pièce de Mathilde Amouet.
De Mathilde Amouet, oui. Oui bah. Ah, c'est... Et puis là-dessus, donc au fond, ce qui m'a intéressé quand Ingrid Astier m'a dit « Et pourquoi on n'en ferait pas un CD ?» c'est qu'avec Chibé, son musicien qui est formidable, et je me suis dit « C'est amusant parce que finalement, je m'aperçois qu'avec le temps, ce qui m'amuse, c'est d'aller sur des terrains sur lesquels on ne m'attend pas. » J'irais même plutôt d'aller sur des terrains sur lesquels je ne m'attendais pas. Et que c'est ça qui m'amuse maintenant, c'est, oui, c'est de m'étonner moi-même, d'aller sur des sentiers que je n'ai jamais pratiqués, et c'en est un. Et j'ai fait ça comme ça, avec plaisir, évidemment, parce que justement, je ne veux plus faire des choses qui ne me fassent pas plaisir. Mais je ne m'attendais pas à un tel déluge de critiques aussi bonnes sur le disque, parce que je ne suis quand même pas Gainsbourg, je ne suis quand même pas... je pourrais en citer 15. Mais il y a des critiques merveilleuses, et je dis, bon, bah, j'ai bien fait de l'avoir fait. Mais c'est vrai qu'il est beau, et je rends grâce aussi aux superbes textes d'Ingrid Astier, qui sont de la poésie pure. Je me suis attaché de plus en plus à ça, à la poésie, peut-être plus qu'au roman maintenant. Et avec cette musique, et puis on a même fait un clip, on aurait dit un western d'ailleurs, sauf qu'au lieu d'être à cheval, j'étais sur ma moto, mais j'ai une grosse moto.
Ouais, vous êtes à la fois dans un western, vous êtes un personnage mafieux.
Et du coup, je ne rêve plus qu'une chose, c'est de faire un western. Encore faut-il que j'arrive à monter sur le cheval, mais bon, je prendrai un poney.
Je ne saurais dire exactement quand je découvris ce mot pour la première fois. Si je suis incapable de retrouver dans ma mémoire quel carrefour nous lia, je me souviens de sa sensation. Une sensation exotique. Un mot sans accroche. Je n'arrivais à rattraper par aucun pied. Inconnu, il glissait.
Et puis oui, c'est vrai, j'ai pris ce plaisir de délivrer des mots. De délivrer des mots sur la musique de JB. Et puis voilà, une petite expérience qui m'a bien plu.
Les chats sont toujours en pyjama.
Le chat passe sa vie entière en pyjama.
Oui, les chats sont toujours en pyjama.
L'appel de la nuit. Je me souviens, quand les chats voulaient sortir la nuit de notre maison perdue dans la campagne bourguignonne, ma mère leur ouvrait. Et elle disait, comme pour les excuser, « C'est l'appel de la nuit. » Les adolescents ne jouissent pas des mêmes droits que les chats. Les parents ne leur ouvrent pas la porte après minuit en décrétant l'argument définitif que c'est l'appel de la nuit.
Quand vous avez joué des films dramatiques, vous avez dit que c'est plus facile que de jouer la comédie, il suffit de penser justement que son petit chat est mort.
Oui, j'ai dit ça parce que je me suis rendu compte de ça dans un film géorgien que j'avais fait, ouais. Qui pour la première fois était une comédie pendant la première moitié, mais était carrément un drame. D'ailleurs, je mourrais à la fin. Et c'est vrai que, à tort ou à raison, mais en tout cas moi, j'ai ressenti ça comme beaucoup plus facile de jouer des drames. Parce qu'on a une matière en soi dont on peut se servir. Je veux dire, si à 8h30 du matin, on tourne une scène drôle, d'être à drôle à 8h30 du matin, c'est pas facile. Devant 50 personnes.
Mais c'est très apprécié des critiques.
Mais c'est très apprécié des critiques qui ne savent pas que vous avez pensé au petit chat. Et qui vous dit qu'est-ce qu'il est bien dans cette scène. On sent qu'il est profondément ému. Oui, c'est vrai, mais pas à cause de ce pauvre texte. Je suis ému parce que mon chat est mort la veille.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Gérard Depardieu de temps en temps?
J'ai tourné avec lui il y a quelques mois, ouais. Pendant le confinement. On était vraiment émus de se retrouver. On se voit rarement, rarissimement. De temps en temps, je sais qu'il parle de moi avec beaucoup d'émotion. Mais alors, c'est de temps en temps. Et puis là, on s'est revus, on était tout contents de se revoir, on a tourné 5-6 jours ensemble. Et puis, on s'est promis de ne plus se perdre de vue. Et à l'heure qu'il est, je ne sais toujours pas où il est.
Bon, mais vous les connaissez, il de l'appeler?
Vous aurez de la chance si vous l'avez.
Oui, bon, on va voir.
Allez, donc, non, il est peut-être en Russie, ou au Maroc, à Dubaï.
On va faire son numéro, on va voir ce que ça donne.
Non.
Ouais, bah oui.
Attendez-vous à les choses les plus... Hein, vous risquez d'être censuré, hein, je vous préviens tout de suite.
Ça sera un plaisir. Hein, ça sera un plaisir d'être censuré.
Oui, un plaisir. J'aurais fait tout ça pour rien.
Ah non. Ça passera à la fin.
Personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
On lui laisse un message?
Oui. Bon, Gégé, je te préviens. D'abord, je te dis que je t'ai envoyé des vœux il y a 15 jours, évidemment, j'ai pas de nouvelles. Là-dessus, j'ai envoyé juste des points d'interrogation qui a l'air de dire quand est-ce que j'aurai des nouvelles. J'en ai toujours pas. Là, je remercie M. Denisot qui m'a permis de nouveau en direct, non pas de parler, puisque bien entendu, où es-tu? Dubaï? En Turquie? En Russie? Je sais pas, mais... Mais tu vois, Monsieur Denisot, Michel et moi, nous pensons beaucoup à toi et nous te faisons tous nos vœux.
Très bien.
Et je t'emmerde.
Merci beaucoup, Pierre Richard. Merci.
Il y a dans la nuit une évidence, un drapé. D'elle, je me sens enveloppé. Je n'ai jamais aimé midi et sa lumière crue, comme la télévision qui est le jour dans la nuit. Un jour braillard et obscène. Perspective s'abolit. Baisser de rideau. Fin. Plus d'horizon qui nous nargue. Plus de sollicitation du regard. L'œil se retourne en lui-même. La sensation à l'intériorité. La nuit, je peux être moi, sans me déranger. J'ouvre la porte et me laisse envahir. encore, je dis là, mais je ne la vois pas, je la sens. Elle me pénètre, avec ce sens de la contagion qui est sienne. Soudain, je regarde en moi, et je sais que, dans mon esprit aussi, il fait nuit.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.